Merci. C'est la fin de la première partie du rapport Assurer le bon fonctionnement de l'Internet. Nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions avant de vous présenter la seconde partie du rapport.
Merci Vivien, merci aux équipes. Donc il a été dit que c'est moi qui répondais aux questions, mais en fait il y aura aussi les membres du collège et les services compétents, tout ça, tout ça.
Bonjour, dans la qualité de service, vous parlez...
Juste, vous pouvez vous présenter, excusez-moi.
Jean-Pierre Gatti, je suis consultant. La question que je vous pose, c'est vous parlez beaucoup dans la qualité de service du débit, mais vous ne parlez pas de la perte de synchronisation, notamment dans la DSL. Qui est un handicap énorme, si vous voulez, quand vous téléphonez, enfin bon...
À qui je passe cette question?
Alors oui, on parle... Pour l'instant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de débit parce que la plupart des observatoires existants sur le fixe, notamment, publient des résultats, surtout en termes de débit, de latence aussi un peu. Il y en a quelques-uns qui publient des indicateurs d'usage, comme... la qualité de la lecture de vidéos en streaming ou le temps de chargement d'une page web qui nous tiennent à cœur parce qu'on pense qu'ils parlent davantage aux consommateurs. On se penche aussi évidemment sur les indicateurs de connectivité, et donc ce dont vous parlez, et on essaie de faire émerger d'écosystèmes. Et d'ailleurs, dans le code de conduite qu'on a publié, donc il y a des aspects transparence et des aspects bonnes pratiques sur différents indicateurs et pas seulement le débit, aussi sur des indicateurs d'usage, etc.
Pendant 10 ans, tout a bien marché. Depuis 3 ans, j'ai des désynchronisations. Je vous assure, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et l'opérateur, le FAI, n'est pas capable de le réparer. On vous balade, c'est votre ancien chez vous, c'est général sur votre secteur. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi.
Ça fait un terrain d'investigation intéressant pour le rapport de l'année prochaine.
Bonjour, je suis Henri Bessière, journaliste indépendant. Juste une petite question sur la fin de la présentation sur l'IPv6. Votre collaborateur a parlé à la fois de l'exemplarité de l'État, tout en ajoutant derrière que l'État n'était pas toujours au rendez-vous. Est-ce que vous pourriez nous clarifier un peu ce point? Comment peut-on être exemplaire sans être au rendez-vous?
Bah, c'est bien pour ça qu'on en fait un item d'un agenda à construire. C'est que l'État n'est pas assez exemplaire aujourd'hui. Voilà, hein, c'est ça, c'est, bien sûr. Non, mais c'est ça le point. Déjà, en fait, quand le sujet IPv6 avait été travaillé, je sais plus, c'était en 2010 ou 2011, je crois Éric Besson, à ce moment-là, avait pris un certain nombre de mesures. Et dans les marchés publics, on était censé faire appel à IPv6. Ça n'a pas vraiment été suivi des faits, d'après ce que je comprends. Pour la petite histoire, hein, nous, à l'ARCEP, avec nos petits bras, quand on a fait notre appel d'offres pour choisir un site web, enfin pour les différents prestataires du site web, on s'est rendu compte que des prestataires qui étaient IPv6, il n'y en avait pas tant que ça. Et donc c'est l'ensemble d'un écosystème qui doit monter en puissance. Donc l'État, bien sûr, il peut être là pour montrer l'exemple et tirer, mais l'idée c'est qu'on permette vraiment à tout un écosystème de monter en puissance. Vous voulez ajouter quelque chose ou c'est bon?
Bonjour, Agnès de Cornudier, de la Quadrature du Net. Je vais vous poser aussi une question sur l'IPv6, puisqu'on voit sur le joli schéma que SFR est quand même assez en retard sur le déploiement de l'IPv6 et qu'on risque d'avoir un internet qui ne fonctionnera plus vraiment, en tout cas pour les abonnés SFR, qui n'auront pas accès à l'IPv6 en 2020, enfin et qui n'ont toujours pas accès à l'IPv6, ce qui est complètement contraire à la neutralité du net. Et donc, outre la régulation par la data, etc., je voulais savoir ce que comptait faire l'ARCEP sur ce plan-là pour essayer d'améliorer la situation.
Alors, d'abord, on partage cette préoccupation. Et là, les graphiques qu'on a montrés, je pense qu'ils ne portent que sur l'Internet fixe. Mais en fait, sur l'Internet mobile, on n'est nulle part. Aujourd'hui, on n'a même pas de projection de la part des opérateurs. Donc c'est évidemment une préoccupation qui est forte chez nous. Je passerai la parole au service pour compléter. l'interaction entre neutralité du net et IPv6 est une question complexe, pour faire simple. Voilà. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut être coercitif sur ce sujet ? Nous, notre philosophie. Enfin, moi, je pense que pour finir, il faudra être coercitif. Comme toute bascule, à un moment, il faut synchroniser tout le monde. Bon, ça, effectivement, je pense qu'il y aura, un moment de bascule où il faudra sans doute être coercitif. Je pense qu'on n'en est pas là. Je pense qu'on est encore en train d'accompagner l'écosystème. Je pense qu'il y a des pressions sur les acteurs qui vont se faire de manière naturelle. Je pense que si un opérateur devait durablement être très en retard sur les autres sur cette question, je pense que ça aurait un impact sur lui en termes commercial. Et donc je pense qu'il y aura un effet d'apprentissage. Il y a une boucle de rétroaction qui fait que l'acteur en question est susceptible de se mobiliser. Est-ce que on a des choses à dire en plus sur ce sujet ? Je me tourne vers les services. Sur le droit à l'IPv6 ou ce genre de choses ? Allez, Laura.
Non, peut-être le lien un peu ténu entre IPv6 et neutralité du net. Je pense que vous faites allusion à certains usages qui sont impossible ou plus compliqué du fait de la lenteur de la transition vers IPv6, notamment l'auto-hébergement. C'est un sujet qu'on a bien en tête, on a discuté avec vous, on en discute activement en ce moment avec les opérateurs également. Pour ceux qui voilà, n'ont pas le sujet en tête, la pénurie d'adresses IPv4, en fait, fait que, comme le montrait Vivien avec l'exemple de Nice ce matin, chaque client ne peut pas bénéficier d'une adresse personnelle et accessible depuis l'extérieur et qu'il y a aussi certains flux entrants qui ne peuvent pas être admis sans distinction à destination du client pour des raisons de sécurité, ce qui fait que des services d'auto-hébergement peuvent être rendus plus compliqués. Il y a des mécanismes un peu alternatifs qui sont mis en place par des opérateurs comme le DIN DNS par exemple. On est en train de vérifier est-ce que réellement ils sont accessibles facilement à tout un chacun ou en tout cas à tous ceux qui en ont besoin. Et est-ce qu'ils permettent de répondre à ce genre de problème ?
Oui, bonjour, Maître Archambault. Justement, pour rebondir sur cet exemple IPv6, le cas qui a été présenté sur Nice est en fait un petit cas d'école, puisqu'il se trouve que sur la zone en question, les abonnés en question sont en IPv6 natif. Et en fait, on atteint la limite de l'exercice, puisque le site web consulté ne gérait pas IPv6. Donc, il a fallu basculer en IPv4, et donc, pénurie d'adresse, il a fallu être sur une adresse mutualisée. C'est pour ça que vous avez, dans les normes Internet, une RFC qui gère la situation, qui n'est pas prise en compte. On parlait tout à l'heure de l'exemplarité de l'État. Ça fait 10 ans que l'État ne s'est pas imposé le log du port source dans les données de connexion. Donc voilà, quelque part, c'est un peu on atteint la limite de l'exercice, puisqu'on voit que sur le fixe IPv6, on est relativement prêt. Sur le mobile, tout reste à faire. On voit qu'effectivement, il y a des gros sujets en matière d'interconnexion. Vous venez de rendre une décision récemment là-dessus. Mais clairement, comment basculer sur IPv6 si derrière, vous avez la couche accès qui n'est pas structurellement la couche service qui n'est pas structurellement incitée à gérer efficacement IPv4. Donc peut-être se posera la question, comme ça avait été le cas avec NCP, si vous ne gérez pas IPv6, dans ce cas-là, la connectivité vers IPv4 n'est pas garantie. Cela nécessitera effectivement des réponses de la part du régulateur là-dessus pour préciser ce qu'on entend par qualité de service. Mais globalement, j'attire l'attention, on pointe un élément qui est sur les limites du système, c'est-à-dire que c'est, comme vous l'avez noté, c'est tout l'écosystème qui va falloir prendre en compte. Comment on va faire en sorte que la couche service, les fournisseurs de contenu, les hébergeurs, vous l'avez très bien vu actuellement lorsque vous voulez faire un marché public pour héberger un site web, et j'en suis aussi également comme vous la première victime, mon hébergeur ne sait pas gérer IPv6. Comment faire en sorte que, alors que l'accès commence à montrer, en tout cas sur le fixe, la tendance, comment faire en sorte qu'on ait un cercle vertueux de ce côté-là ? Est-ce que vous avez des réponses là-dessus ?
Merci. Je pense qu'on va prendre le point. Enfin, je ne sais pas si Vivien, tu voudras répondre. Non, mais merci de nous faire remonter ce genre de questions. Moi, j'ai un souvenir l'année dernière. J'avais été à Chicago à une réunion de l'IETF et j'avais discuté avec un monsieur allemand avec des cheveux longs, qui était un spécialiste. J'ai oublié exactement. Et en gros, on a parlé IPv6 et il m'a dit personne à travers le monde n'a trouver la manière de plus ou moins forcer la transition. Donc je crois que, enfin, je prends le point. Notre idée d'organiser des ateliers, c'est de construire la solution ensemble. Donc rendez-vous le 10 octobre, c'est ça la date. Mais en tout cas, merci de cet input. Tu veux ajouter quelque chose, Vivien? Non? Ok. Bon, on prend note de la RFC en question. Merci. Merci.
Je suis Laurent Garbi, membre d'une association tétaneutral.net, fournisseur d'accès à Internet. Sur la qualité de service, donc il y a un projet, vous avez un projet ambitieux d'essayer d'objectifier la mesure sur les terminaux, sur l'expérience utilisateur. Est-ce que vous considérez, regardez plus en détail, puisque maintenant vous collectez les données, les saturations périodiques et récurrentes des portes entre les opérateurs et l'Internet, qui est nécessairement une saturation qui va affecter un grand nombre d'acteurs, à la fois du côté client et du côté des fournisseurs de services.
Vous avez des exemples en tête ou c'est une préoccupation générale?
Il y a entre un opérateur Internet et certains fournisseurs de services, la situation change évidemment, mais c'est, le symptôme le symptôme n'est pas lié à un chemin particulier puisqu'il affecte une grande partie des opérateurs qui sont derrière ce choix d'interconnexion. Médiatiquement, ça remonte sur certains fournisseurs de services bien connus, mais voilà.
Bon, vous voulez pas dire qui c'est alors? Non, mais je crois que, enfin, ce qu'on a voulu à travers cet exercice de l'interconnexion de données, c'est apporter le maximum de transparence et nous mettre en capacité d'agir de manière assez rapide sur des situations données. Il y a vraiment deux sujets qui sont vraiment différents dans notre esprit. Il y a vraiment la question de la gestion de trafic et de la responsabilité du fournisseur d'accès à Internet dans le service qu'il apporte au client final qui est Internet, et qui est un Internet neutre. Et ensuite, enfin qui doit être neutre. Et ensuite, il y a un autre sujet qui est l'interconnexion de données, qui bien sûr peut avoir un impact sur la qualité de service d'un service donné. Pourquoi est-ce qu'on fait la séparation entre les deux? D'abord pour des questions juridiques, mais aussi pour des questions de responsabilité. C'est que l'interconnexion, comme son nom l'indique, c'est deux personnes. Et donc, quand on est un grand fournisseur de contenu, eh ben, on a une responsabilité dans la qualité du service qui est apporté aux utilisateurs. Et donc, c'est forcément une construction qui se fait à plusieurs. Et donc, Netflix, pour ne pas le citer, mais tous les grands acteurs des contenus ont aussi une responsabilité à construire avec leurs fournisseurs d'accès Internet pour assurer une bonne qualité de service. Donc, je ne sais pas tellement quoi vous répondre d'autre. Je pense que ce qu'a bien été dit tout à l'heure sur cette question de l'interconnexion de données par Samy, c'est que on regarde, on est présent. On intervient souvent de manière informelle pour comprendre. Il y a beaucoup de choses qui se résolvent en passant des coups de fil. Voilà. Et puis, on peut être saisi. On réglemente différents. On a un cadre relativement luxueux en France puisque on peut être saisi d'un règlement différent entre un opérateur télécom et un fournisseur de contenu, y compris un fournisseur de contenu qui n'est pas lui-même opérateur. Donc c'est un cadre qui est très protecteur. Et à ce jour, nous n'avons pas été saisis. Donc, on a jamais été amené à se prononcer concrètement. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter sur cette question. Non ? Ok. Et on aime bien Netflix, hein, ils sont gentils. Hein.
Sandrine Lafont du CNES. Une question plus de détails, mais vous avez parlé d'API dans les box pour les mesures de performance. Ça veut dire que les opérateurs seraient obligés de mettre ces API à disposition ou...
Bonne question. Très bonne question. Ça fait partie des choses qu'on va discuter avec les opérateurs. J'ai envie de dire qu'au moins dans un premier temps, on a envie de construire ça de manière spontanée. Il me semble que le rôle de l'ARCEP à travers cette communauté technique qu'on a créée, c'est avant tout de normaliser, c'est-à-dire de dire quelles sont les informations et comment elles doivent être présentées. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qu'on doit, entre guillemets, normaliser, même si ce n'est pas forcément dans un document juridique. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit poser. Ensuite, est-ce qu'on va vers forcer les FAI? On ne s'est pas fait une religion encore sur ce sujet. On aurait envie que ça se fasse de manière relativement spontanée. Si c'est nécessaire, oui, on utilisera les outils juridiques pour les forcer, notamment la situation qui nous embêterait, ce serait une situation dans laquelle certains iraient, d'autres non. Voilà, donc c'est évidemment des choses qu'on veut éviter. Il y a un autre élément qui est important dans cette histoire, c'est est-ce que l'API elle est open bar ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que l'information est donnée par les FAI à n'importe qui, ou est-ce qu'il faut montrer patte blanche? Voilà. Donc sur ce sujet aussi, on ne s'est pas encore fait complètement une religion. L'idée, c'est potentiellement d'articuler avec le code de conduite, hein, c'est-à-dire que d'un côté, on dit il y a un code de conduite pour les outils de mesure, pour accompagner les acteurs vers une montée en gamme, et potentiellement, ce ne serait que les acteurs qui s'inscrivent dans ce code de conduite qui aurait accès à l'information par les FAI. Mais ça aussi, ça reste des choses à discuter, à construire ensemble. Donc, hein, pour mémoire, le calendrier sur ce sujet, c'est qu'on met sur la table une version bêta du code de conduite sur lequel on attend des retours des acteurs. L'idée, c'est d'avoir une adoption définitive d'une V1, enfin, une adoption d'une V1 de ce code de conduite à l'automne, et de commencer à rentrer l'année prochaine dans une autodéclaration autour de ces outils de mesure et dans la construction de ces API dans les box, qui sera une affaire qui va durer un petit peu et à un moment qui faudra qu'on détermine, qui n'est pas encore fixé à l'avance. Il y aura une V2 de ce code de conduite pour vraiment accompagner dans cette montée en gamme. Des choses en complément, l'équipe, hein ? J'ai bien imprimé le son.
Bonjour, Frédéric de Jonker, SFR. Je vais apporter un petit complément d'information par rapport à la slide sur l'IPv6. Ce sont des données en fait de projection qui ont été publiées. Chez SFR, l'IPv6 n'est pas activé par défaut sur la box de nos clients. En revanche, une majorité des box sont compatibles. Donc le client, s'il le souhaite, pourra activer l'IPv6. Ce qu'on a constaté, c'est que certains clients, en l'activant, rencontraient des difficultés avec certains sites. Donc on ne l'active pas par défaut. Ça ne veut pas dire que le client n'a pas la possibilité de le faire.
Ok, merci de cette clarification. D'autres questions sur cette première partie ? Non ? Ok. Bon, je propose qu'on passe à la deuxième séquence, qui est sur la net neutralité, l'ouverture des terminaux. Et il y a un troisième sujet ou pas ? Il n'y en a que deux ? Ok. La neutralité du net, le plat de résistance. Boris.
Euh,